Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Depuis 2014, l'exploitation du zircon par Eramet sur la côte nord de Dakar est vivement critiquée. Les communautés locales accusent l'usine mobile d'assécher les sols, polluer les nappes phréatiques et détruire les dunes et terres agricoles essentielles à la région des Niayes, mais également par rapport au tourisme. Une situation qui dure et qui perdure. Et pour en parler, nous retrouvons aujourd'hui en direct de Dakar, Julien Potron, un fervent défenseur de l'environnement, aussi un porteur de voix sur ce sujet. Bonjour à vous et merci encore de répondre à cette invitation.
Bonjour Monsieur Tonkara, merci pour l'invitation.
Alors, Monsieur Potron, nous avons déjà parlé de ça lors de notre premier numéro. Cette fois-ci, il s'agira de voir où évolue et comment évolue même la situation. Et quel est d'ailleurs l'état des études d'impact environnemental social d'Eramet au Sénégal, notamment par rapport à l'actualité aujourd'hui que vous défendez?
Effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions, puisque je pense aussi grâce à votre médiatisation, il y a d'autres journalistes qui se sont intéressés au sujet. Au Sénégal, puisqu'il y a plusieurs enquêtes des grands médias sénégalais en ligne et aussi la presse écrite et les télévisions nationales. Il y a également eu beaucoup de presse internationale. On a eu des reportages de France 24, TV5, AFP, également des articles de presse écrite Le Monde, Libération, Reporter et bien d'autres. Et donc c'est intéressant que le sujet ait pu émerger sur la place publique. Donc c'est un vrai débat aujourd'hui au Sénégal. Maintenant, effectivement, on a quand même une situation qui n'a pas beaucoup avancé d'un point de vue transmission d'informations, partage d'informations. Et puis, on constate aussi que le désert de Lompoul, qui était un point assez symbolique sur le tracé de la mine, le désert de Lompoul a manifestement pratiquement disparu. Hein. Aujourd'hui, sa disparition a été actée par... vraisemblablement le gouvernement, puisqu'il n'y a pas eu d'action pour empêcher sa disparition. Voilà. Et puis les populations continuent de se plaindre de leur situation. Donc la situation est là. Il y a eu également des questions écrites déposées au gouvernement, à l'Assemblée nationale sénégalaise, et également une question écrite déposée à l'Assemblée nationale française, pour en savoir plus, mais aucune de ces questions écrites, ni au Sénégal, ni en France, n'ont eu de réponse jusqu'à maintenant. Il y a également une demande d'enquête parlementaire au Sénégal qui a été déposée, mais il n'y a pas encore eu de réponse non plus à cette demande. Donc, et ça fait plus de 6 mois que ça a été déposé maintenant. Donc voilà, la situation est assez étrange. Et puis, en parallèle de ça, il y a quand même, il faut le noter, une action juridique qui a été engagée par l'entreprise Eramet contre moi-même. Voilà, pour diffamation sur un poste que j'ai écrit et qui ne fait que relater des articles de presse publiés il y a plusieurs années sur des conditions supposées d'obtention des licences d'exploitation de l'entreprise qui précédait Eramet. Donc vous voyez, il y a tout un écosystème d'actions qui sont menées, d'évolution du cas, sur lesquels, mais qui posent vraiment des questions, parce que plus on avance et plus finalement la situation est assez floue et on ne comprend pas bien toutes ces démarches-là, ou alors ces silences qui ont lieu de la part de certains acteurs. Et malgré tout, la mine continue d'avancer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, week-end et jours fériés inclus. Hein. Elle a même augmenté sa capacité d'extraction aujourd'hui avec une deuxième station d'extraction. Donc on voit que les choses s'accélèrent au niveau de la destruction environnementale. Je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, mais aujourd'hui, nous sommes la journée mondiale dédiée à la déforestation et à l'assèchement, à la sécheresse, l'assèchement des sols. Et on voit que la mine Eramet ici, de manière évidente, hein, est en train d'accélérer aujourd'hui ses dégâts et ses effets sur le changement climatique. Et donc, voilà, les questions restent en suspens,
Et dans cette
malheureusement.
même dynamique aujourd'hui, par rapport au désert de l'Ampoule, vous en parliez tout à l'heure, malheureusement, à vous entendre, la situation n'a pas si avancé que ça. Aujourd'hui, sur le plan de l'environnement, quelles sont les répercussions que cela peut avoir et continue même d'avoir sur la population?
Alors effectivement, le désert de l'Ampoule, on peut le dire, hein, il est à moins d'une décision de dernière minute du gouvernement pour préserver peut-être une toute petite partie qui reste et voilà, le réserver comme un sanctuaire écologique. Nous, c'est ce qu'on demande, puisque 90% du désert de l'Ampoule a disparu. Ils sont en train de détruire et d'avaler, hein, les 10% restants. À moins d'une décision exceptionnelle, je pense que malheureusement, ce joyau écologique et symbole touristique du Sénégal a disparu. Maintenant, en ce qui concerne les impacts sur les populations, on constate aujourd'hui que dans les villages de déplacés, donc il y a 3 villages où des gens ont été déplacés, ils continuent de souffrir d'un problème d'eau. C'est vrai que la mine avait livré quelques citernes d'eau, mais c'est sporadique et ça ne règle pas le problème de la qualité de vie des populations. On a aussi énormément de poussière aux alentours de la mine, hein, puisque c'est une mine d'extraction de sable minéralisé. Et puis en plus, il y a des camions, hein, qui chargent les minerais pour aller les livrer dans une usine. Donc on a quand même des conséquences. Et puis on a des nappes phréatiques aux alentours de la mine qui ont des comportements assez étranges, puisque des fois les nappes baissent brusquement, des fois elles remontent, elles inondent des sols et tuent des arbres. Les populations, elles accusent la mine d'avoir mis des produits chimiques. Moi, personnellement, je n'en ai pas la preuve, j'en doute même. Mais en fait, on a des situations où des arbres ont trop d'eau ou alors pas assez d'eau, ou des cultures, et donc on a forcément des conséquences sur la faune et puis la flore, puisque tout ça, c'est un écosystème de biodiversité qui aujourd'hui est impacté.
Et aujourd'hui, par rapport à la situation, vous l'avez dit, hein, il y a le désert de l'Ampoule, mais les conséquences sont beaucoup plus larges sur le plan également de ce que ça représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan environnemental, sur le plan de l'agriculture ou autre. Et aujourd'hui, pensez-vous que cette situation, même si bien évidemment elle est freinée, pourrait positivement dans les années à venir, négativement plutôt, avoir des conséquences sur l'environnement?
Mais aujourd'hui, alors en plus même des conséquences sociales, environnementales, on a même des conséquences culturelles, hein, puisqu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'évolution du cas qu'il y a même un cimetière qui aurait été déplacé, mais dont les gens ne retrouvent pas les sépultures. Ou alors il y a un mausolée, le mausolée d'un érudit, qui a été déplacé de nuit sans la présence de ses parents. Donc il y a même des questions culturelles auxquelles moi j'ignorais totalement, qu'on a découvert en cours de route. Et évidemment, aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'étude, on va dire, indépendante qui a été faite ou qui a été commandée, à ma connaissance, pour évaluer les conséquences à court, à moyen et à long terme de cette exploitation minière. On n'a pas non plus d'études sur les terres qui ont déjà été minées et qui sont en passe d'être restituées aux eaux et forêts d'après la mine et dont nous on constate qu'elles n'ont pas été correctement revégétalisées. Et évidemment, la question se pose de savoir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand la mine de toute façon aura fermé, puisqu'il n'y aura plus de ressources minérales, de sable minéralisé dans la zone, qui paiera les conséquences de ça et à combien s'élèveront le coût de ces conséquences. Et là, aujourd'hui, c'est un flou artistique, puisque aucune étude scientifique, à ma connaissance, n'a été publiée ou même tout simplement exécutée. Voilà. Les études d'impact social et environnemental pré-exploitation n'ont pas été publiquement partagées aux populations, et les populations les avaient de toute façon refusées, mais malgré tout, on a retrouvé des documents où c'est marqué que les populations ont accepté sous réserve. Donc on constate qu'il y a probablement, on ne sait pas, mais s'il y a une enquête qui a lieu, peut-être qu'il y a même des faux qui auraient été produits. Mais encore une fois, c'est des questions qui sont posées. Est-ce que tout ça a été fait dans l'ordre? Mais on n'a toujours pas de visibilité sur le coût à moyen et à long terme de cette exploitation. Et je rappelle que cette zone avait été protégée par la plantation de millions d'arbres pour protéger en fait les cuvettes maraîchères de l'avancée du désert ou des dunes de sable. Et aujourd'hui, on a plus de 500 hectares qui sont laissés à nu par la mine sous prétexte de laisser une zone pour l'activité touristique. Je vous laisse imaginer ce que représente l'étendue de 500 hectares de sable à nu dans une zone où on a un problème d'ensablement des cuvettes maraîchères qui, je le rappelle, sont les zones maraîchères qui produisent 60 à 80% des légumes consommés dans le pays. Donc, encore une fois, on manque de matériaux scientifiques pour évidemment et effectivement se faire une idée de toutes ces conséquences. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. On pose des questions et on aimerait évidemment avoir des réponses chiffrées, documentées, rationnelles, plutôt que des discours qui se veulent non pas rassurants, mais qui nient en fait les dommages. Et c'est ça qu'on constate aujourd'hui. On constate un discours de l'entreprise dans les médias qui déclare, et je cite, que leur action est extrêmement responsable vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de la biodiversité et vis-à-vis de leurs relations avec les communautés locales. Ça, c'est ce qui a été dit à France Inter par la directrice de Eramet il y a quelques semaines, qui est maintenant seulement présidente. Et évidemment, sur le terrain, c'est tout l'inverse qu'on constate. Donc, il y a une espèce de double discours qui crée encore de la confusion, en fait, puisque les populations demanderaient juste à ce qu'on puisse s'asseoir, déjà s'excuser pour le tort qui a été fait, et puis commanditer des enquêtes de professionnels, de scientifiques, pour que ni l'une partie ou l'autre ne puisse apporter sa
Tout
vérité,
à fait.
mais qu'une vérité scientifique émerge. Voilà un peu la situation.
Une vérité scientifique émerge, tout cela bien évidemment dans la protection de l'environnement, à travers bien évidemment ce dossier Eramet au niveau du désert de l'Ampoule du Sénégal. Nous étions avec Julien Poutron, un fervent défenseur de l'environnement, mais aussi un des pionniers de ce dossier concernant l'environnement et aussi la destruction de cette zone, qui est une belle zone, une zone touristique, je le rappelle aussi pour le Sénégal. Julien Poutron, merci encore pour ces éclairages.
Merci, monsieur Tonkara. Au
Merci
plaisir.
également à vous également, chers auditeurs, pour la durabilité de cette confiance renouvelée. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au plaisir.